Sixième aventure de Pierrot, où Henri Bilis apprend qu'il y a de grands capitaines qui ne sont pas princes et des princes qui ne sont pas de grands capitaines. Fin de l'histoire de Pierrot. Vous avez sans doute entendu parler de la célèbre ville de Cractacta. Au surplus, si vous ne la connaissez pas, vous la rechercherez sur la carte des îles inconnues que fit publier le sage Alcof Ribas pour servir de guide à l'histoire de Pierrot. C'est la plus belle et la plus célèbre de toutes les villes de l'Asie. Elle est composée de 7 enceintes concentriques et parfaitement circulaires, dont voici à peu près le plan. Au centre était le palais de Kabartandès, empereur des îles inconnues, dont Cractacta était la capitale. Autour du palais était rangée, dans un ordre parfait, une suite de hangars sous lesquels on abritait les chevaux pendant la nuit. Au-dessus de chaque hangar était une chambre où logeait pêle-mêle et couchait sur la paille toute la famille du propriétaire. Vous entendez bien, mes enfants, que le mobilier était assorti au logement. Ce mobilier se composait d'une botte de paille pour chaque membre de la famille et d'une grande marmite dans laquelle se faisait et se mangeait avec les doigts la soupe commune. Les cuillères et les fourchettes, dit le vieil Alcof Ribas, sont bonnes pour des gens délicats et désœuvrés, mais un homme ne doit se servir que de ses mains. Quand il a dîné, il les essuie à sa barbe, ou s'il n'en a pas, à celle de son voisin. Chacun portant ainsi en tout temps sa serviette avec soi, il n'est plus besoin de tant de linge et de tous les bagages dont on s'encombre aujourd'hui dès qu'on veut aller en voyage. Alcof Ribas ait raison, suivant sa coutume, ou qu'il ait seulement le désir de blâmer la mollesse de ses contemporains, peu importe. Cette description de la capitale de l'Empire des îles inconnues n'est pas un hors-d'œuvre, comme on en voit souvent dans les ouvrages de gens qui cherchent à plaire à leurs lecteurs, plutôt qu'à les instruire. Alcof Ribas, mes amis, n'était pas de ce caractère. C'était un vieux magicien, très savant, très austère, et qui se souciait de la vérité beaucoup plus que des hommes. Les hommes passent, disait-il, et au bout de 40 ans, les plus célèbres sont oubliés. Mais la vérité demeure, elle est immortelle comme Dieu même. D'après ce principe, il ne dit que ce qui peut contribuer à la découverte de la vérité. Tout le reste lui est tout à fait indifférent. Donc un matin, comme les citoyens de Cractacta, après avoir déjeuné et pansé les chevaux, causaient ensemble de la guerre et des affaires publiques, on entendit un grand bruit dans la plaine, et la sentinelle qui veillait sur le palais de Kabartandès et qui dominait de là tout le pays s'écria « Voilà nos gens qui reviennent !» En même temps, on distinguait le galop des chevaux. Tout le monde courait sur les remparts. On fut un peu étonné de les voir revenir si vite. Comme on s'attendait à ce qu'ils ramenèrent un immense butin, la Chine étant le plus riche et le plus fertile pays du monde, on remarqua que non seulement ils revenaient seuls, mais encore qu'ils avaient eux-mêmes perdu leurs bagages, et l'on devina la triste vérité. Enfin, chaque soldat ayant défilé à son tour, on vit avec épouvante que les 3/4 manquaient à l'appel et que ceux qui survivaient étaient en fort mauvais état. Aussitôt, il s'éleva parmi les femmes qui attendaient leur mari ou leur fils un tel concert de lamentations et de cris qu'on ne pouvait s'entendre. Kabartandès, assourdi de ce tapage, et furieux d'ailleurs de sa défaite, déclara qu'il couperait le coup sur le champ à tous ceux qui ne garderaient pas un silence absolu. En entendant cet ordre si sage, les femmes devinrent muettes comme des poissons. Cependant, l'armée chinoise approchait sous la conduite d'Horribilis. Celui-ci, persuadé que la poursuite était sans danger, vint camper sous les murs de Kraptavka. La campagne était déserte. Moissons, troupeaux, chevaux, tout ce qui sert à la subsistance de l'homme, était rentré dans les murs de la ville. Horribilis, satisfait de l'épouvante que son nom répandait partout, envoya sommer la place de se rendre. À cette sommation insolente, Capardantès saisit l'envoyé chinois par les deux oreilles, l'enleva de terre et, le tenant dans ses mains, lui dit, sans vouloir le lâcher, « Va dire à ton maître que je l'appelle en combat singulier. » « J'y vais, » dit le chinois, faisant un effort pour se dégager et retomber à terre. « Bon, attends donc, tu es bien pressé. Dans quel terme lui diras-tu cela ?»« Oh, mais Seigneur, au nom du ciel, lâchez-moi, je vais vous satisfaire. »« Non, 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 dis-moi auparavant comment tu vas rédiger mon cartel. »« Seigneur, je vous supplie. »« Mais parleras-tu, Triblebuse ? Crois-tu que le grand Cabardantès s'exprime comme le premier Pékin venu ? Non, Seigneur, je ne le crois pas, mais songe que j'ai fait de bonnes études aux écoles de Kraktaktaka. Seigneur, je le vois bien, mais et que j'ai eu pour maître le Seigneur Poutkipov, qui ne le cédait en rien à Aristote. Seigneur, ni dans les lettres, Seigneur, ni dans les sciences. Seigneur, ni dans l'histoire naturelle, Seigneur, ni dans la physique, la botanique, la dialectique et l'hyperphysique, Majesté, et que j'ai bien profité de ces leçons. Grand empereur, eh bien voyons, rédige-moi un peu ce cartel pour que je sache comment tu t'en tireras. Mais grand empereur, dit le chinois bluissant de rage et de douleur, le moment n'est pas favorable, daignez me laisser retomber à terre. En effet, dit Camardantès, tes oreilles tiennent à mes mains plus qu'à ta tête. À ces mots, le chinois retomba lourdement à terre. Ses oreilles étaient restées aux mains de Camardantès. Il se releva à moitié mort et essaya de s'enfuir, mais le tartare le retint. « Rédige, lui dit-il. « Seigneur, dit le chinois en tremblant, je vais vous obéir, mais daignez me faire donner un peu d'eau fraîche pour baigner ma blessure. Ben, »« En effet, mon pauvre ami, comme te voilà saignant. » Et il ordonna d'aller chercher du vinaigre dont on épongea les oreilles du chinois, ou plutôt la place où elles avaient été. Le malheureux poussait des cris affreux, mais il fut forcé de subir cette opération. « Maintenant, dit Camardantès, as-tu l'esprit bien présent et la pleine possession de tes facultés ?»« Assurément, Seigneur, s'écria le chinois, redoutant quelques mystifications nouvelles. Eh bien, écris. Chien de Pierrot, qu'as-tu à me regarder comme un imbécile? Mais Majesté, dit le chinois, Pierrot n'est plus à l'armée. Vraiment? Oui, Majesté. Et depuis quand? Mais depuis le jour de votre... » Ici le chinois hésita et parut chercher l'expression. « De ma fuite ? Non, non, Seigneur, de votre concentration précipitée du côté de Kraktaktaka. Mais est-ce qu'il est mort ? Non, il a été destitué. Pierrot destitué, mais qui le remplace ? Le prince Horribilis, sire. Oh, bravo, dit Cabardantès. Oh, mais je n'ai que faire de tes services à présent. Va, pars, cours, vole. Et se tournant vers les principaux officiers, ami, à cheval, Pierrot est parti. la journée sera bonne. » Une heure après, toute l'armée tartare sortit des murs de Kraptavka et se précipita dans le camp des Chinois. Ceux-ci ne s'attendaient à rien moins. La plupart étaient à dîner, d'autres étaient au fourrage où brûlaient les villages tartares dans la campagne. Au premier cri des sentinelles et des gardes avancés, tout le monde courut aux armes et vit avec terreur s'avancer au galop l'effroyable Kabardantès. Les Chinois n'hésitèrent pas et reprirent sans tarder le chemin de la grande muraille. Les plus affamés ne se donnèrent pas le temps d'emporter les provisions pour la route. Quant aux autres, ils étaient déjà loin. Figurez-vous, mes amis, 800 000 Chinois courant à la fois dans la plaine, tous dans la même direction. Ceux qui étaient à cheval formaient l'avant-garde, comme il est naturel. À leur tête galopait, ou plutôt volait, le prince Horribilis. Les pieds de son cheval touchaient à peine la terre. Quant à lui, il maudissait sa mauvaise étoile et la sotte idée qu'il avait eue de venir à la guerre et de faire destituer Pierrot. De temps en temps, il pensait à Kabardantès. Quel enragé tartare, pensait-il. Voilà 3 jours que nous galopons après lui, il rentre dans sa maison et au lieu d'embrasser, comme un bon mari et comme un bon père, sa femme et ses enfants, le voilà qui remonte à cheval et qui court après nous. Est-ce du bon sens? Est-ce de la logique? S'il voulait entrer en Chine, pourquoi s'enfuyait-il vers Kraptavka? Et s'il voulait rentrer à Kraptavka, pourquoi galope-t-il maintenant du côté de la Chine? Tout en faisant ces sages réflexions et beaucoup d'autres que je passe sous silence, parce qu'elles ne lui ont guère profité qu'elles ne l'ont rendu ni plus prudent, ni plus habile, ni plus brave, ni meilleur, ni plus disposé à reconnaître et à récompenser le mérite des autres hommes, il éperonnait toujours son cheval. À une assez grande distance derrière lui, mais avec une ardeur toute pareille, courait tout son état-major, suivi de près par la foule des martyrs. Les lances des Tartares piquaient ce troupeau de fuyards et leur donnaient des ailes. Enfin, le soleil se coucha, et les malheureux Chinois, protégés par les ombres de la nuit, purent prendre un peu de repos. Le premier jour, plus de 100 000 Chinois périrent ou furent faits prisonniers. Le lendemain, la poursuite continua. 150 000 Chinois restèrent encore en route. Le troisième jour, les débris de l'armée arrivèrent à la grande muraille et se cachèrent derrière les remparts qu'avait défendus Pierrot. Kabardantès, animé par le succès, voulut sur le champ escalader la muraille. Mais la plupart des Tartares, épuisés par une course continuelle, refusèrent de le suivre et remirent l'attaque au lendemain. Et il y a un proverbe qui dit « Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. » Jamais proverbe ne fut mieux appliqué qu'en cette occasion. Horribilis, désespéré, faisait chercher partout Pierrot pour lui rendre le commandement. Dans les grands dangers, et les âmes courageuses reprennent naturellement le pouvoir. La jalousie et la haine avaient fait place à la peur. Le malheureux Horribilis ne voyait le salut qu'en Pierrot. « Mais où est-il ? » disait-il à Tristan-Plaine. « Dis-le-moi, toi qui es sorcier. » « Je n'ai pas besoin d'être sorcier pour le deviner, » répondit Tristan-Plaine avec un affreux sourire. En quittant la cour du roi votre père, il est allé délivrer sa fiancée. « Eh bien, envoie sur le champ un express pour le rappeler et lui dire que je remets tout en ses mains et que s'il n'arrive à l'instant, je suis perdu, l'armée est perdue, toute la Chine est perdue. » Aussitôt, le magicien siffla aux quatre vents de l'horizon. Quatre esprits infernaux accoururent à ce signal. « Qu'on me transporte à la cour du roi Ventripan, » dit-il. Une seconde après, il était au pied du grand escalier. En entrant dans la salle, il aperçut Ventripan assis sur son trône, la couronne en tête, les yeux rayonnants de bonheur et de fierté. Il donnait audience aux envoyés du Shah de Perse. « Oui, messieurs, » disait-il en se rengorgeant, « la terreur de mon nom et la valeur du prince Horribilis ont mis en fuite tous ces Tartares. Mon fils m'écrit qu'il marche sur leur capitale, Kraptapka, et qu'il n'en fera qu'une bouchée. « Majesté, » dit l'envoyé du chat, « nous vous félicitons de ce succès et des exploits du prince Horribilis. Il paraît qu'il a été vaillamment secondé par tous ses officiers et surtout par le grand connétable. « Qui, Pierrot ?» interrompit dédaigneusement le roi. « Vous avez lu cela dans les gazettes. Ces gazettes, voyez-vous, c'est un tas de mensonges. Tromper, mentir, prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est le métier de ces gens-là, c'est de cela qu'ils vivent. Horribilis secondé par Pierrot. Et il se renversa sur son fauteuil en riant aux éclats. Majesté, dit le chef des huissiers, voici un courrier du prince Horribilis. Fais entrer, attendez, messieurs, ajouta-t-il. Je ne m'y attendais guère puisque j'ai reçu de ces nouvelles hier. Pierrot a quitté l'armée depuis 6 jours. Ce n'est donc pas à lui qu'on pourra attribuer le mérite des nouvelles que je vais recevoir. Triste Emplette s'avança d'un air modeste. Eh bien, dit Ventripan, où sont tes dépêches? Sire, j'ai ordre du prince Horribilis de ne parler qu'à vous seul. « À moi seul, mais pourquoi tant de mystère? Parle devant tous, il n'y a personne de trop ici. »« Sire, dit Triste Emplette, puisque vous le voulez, je parlerai. » Après le départ du grand connétable, le prince Horribilis a poursuivi l'ennemi jusqu'aux portes de Kraptapka. « Qu'est-ce que je vous disais, messieurs ?» interrompit le gros Ventripan. Et tout à coup, continua Triste Emplette, Cabardantès et ses soldats ont tourné bride et se sont précipités sur nous avec fureur en apprenant le départ du grand connétable. « Diable, diable !» dit Ventripan pensif. « Et vous les avez étrayés, j'imagine. » « Sire, c'est ce qui n'aurait pas manqué d'arriver. » Si les ordres du prince Horribilis avaient été mieux compris et mieux exécutés. Quels ordres? À la vue de Cabardantès et de ses Tartares qui se précipitaient sur nous au galop, le prince a crié « En avant !» Mais malheureusement, comme je ne sais pas pour quelle raison, il était tourné du côté de la Chine, au moment où il a donné cet ordre, on a cru qu'il voulait dire « En avant, retournons en Chine. » Alors tout le monde s'est précipité de ce côté-là, et le prince, entraîné et poussé par le courant, est arrivé le premier à la grande muraille, où il attend vos ordres souverains. « Mes ordres souverains, dit le gros Ventripan, sont qu'il aille se faire pendre. Combien d'hommes a-t-il perdu ?»« Sire, 100 000 le premier jour, 150 000 le second et 200 000 le troisième. En tout, 450 000 hommes. Voilà 3 jours bien employés. Quelle activité! Ah, c'était bien la peine de faire destituer ce pauvre Pierrot. Nous allons chanter la chanson. Mardi, mercredi, jeudi, sont 3 jours de la semaine. Je m'assemblais le mardi, mercredi je fus en plaine, et je fus battu le jeudi. Oh mon Dieu, comment faire? Maudit horribilis, mais qu'allait-il faire chez les Tartares? Mais majesté, il ne pouvait prévoir ce qui est arrivé. Horribilis est un sot. Si le respect ne me permet pas de vous contredire, il s'agit bien de respect. Donne-moi un conseil. Vous tous qui êtes ici, là, à bouche ouverte comme des carpes hors de l'eau, donnez-moi des conseils. Sire, c'est bien facile, dit un courtisan. Mettez-vous à la tête de l'armée. Votre présence électrisera les Chinois et... Va te faire électriser toi-même, interrompit le bon roi. Sire, dit un autre, faites faire un recensement général de tous les hommes en état de porter les armes. Oui, pendant qu'on les recensera, nous serons dans la poêle à frire, imbécile, va. Sire, dit un troisième, faites semer des chausse-trappes sur toutes les routes pour arrêter la cavalerie tartare. Bon, et elle passera à travers champs, et nos chevaux se prendront dans les chausse-trappes. Triple butor. Majesté, dit un quatrième, si l'on substituait des pièges à loups aux chausse-trappes. Grand innocent, dit le roi. Sire, dit un cinquième, si l'on empoisonnait toutes les fontaines, qu'est-ce que nous boirons, dit Vautrinpan. Oh, il serait plus court, je crois, de leur couper franchement le cou. Et chacun proposa son moyen. Vous êtes tous des ânes, dit enfin Vautrinpan. Et toi, ajouta-t-il, s'adressant à Tristan Plette, qu'est-ce que tu proposes? Sire, rappelez Pierrot. Ah, voilà un véritable ami et une personne de bon sens, dit Vautrinpan. Mais où est Pierrot? Sire, il est parti. Bon, nouveau malheur, mais que le diable vous emporte tous! Sire, dit modestement Tristan Plette, si votre majesté veut me donner ses pleins pouvoirs, je me fais fort de vous le ramener. Tu les as, dit Vautrinpan. Le lendemain matin, Tristan Plette arriva au château de Belzébuth, fort à propos pour notre pauvre ami que les flammes environnaient de toutes parts avec sa fiancée. La pauvre Rosine et sa mère se croyaient à leur dernier jour et recommandaient leurs âmes à Dieu. Pierrot lui-même, inaccessible à la crainte, mais désespérant de les sauver, voulait périr avec elles. Les diables criaient et applaudissaient en entretenant le feu avec toutes sortes de matières inflammables prises dans les magasins de l'enfer. Sur ces entrefaites, Tristan Plette entra dans la cour. « Où est Belzébuth ? » dit-il en descendant de cheval. « Me voilà, dit Belzébuth, encore tout froissé de sa chute, que me veut-on ? » À la vue de Tristan Plette, il se jeta dans ses bras. « Eh, bonjour, ami ! Oh, qu'il y a de temps que je t'ai vu, dit-il. « Oui, mes affaires... »« c'est bon, je les connais, tes affaires. »« Quand viendras-tu définitivement parmi nous ?»« Le plus tard possible, » dit Tristan Plette en faisant la grimace. « Tu fais le dégoûté, » dit Belzébuth. « Franchement, tu as tort. L'enfer n'est pas ce que tu crois. Il y a de bons diables parmi nous et nous menons joyeuse vie. » « Quand veux-tu que j'aille te chercher ?»« Nous parlerons de cela plus tard, » dit Tristan Plette. « Je viens ici pour affaires sérieuses. »« Où est Pierrot ?»« Regarde, il va griller. »« Tu vois comme nous avons exécuté tes ordres. »« Malheureux !» s'écria Tristan Plette. « Fais éteindre le feu à l'instant. » « Ah bah, et pourquoi ? Éteins le feu, te dis-je, l'explication viendra plus tard. Mais je ne veux pas, dit fièrement Belzébuth. Il m'a rossé, il a tué ou blessé plus de 60 de mes soldats. Je n'ai dû la vie qu'à mon casque, dont la trempe est au-dessus de toutes les trempes connues, et il périra. Il vivra, dit Tristan, il périra. Il vivra, il périra. À ces mots, les deux amis allaient se précipiter l'un sur l'autre. Au nom d'Eblis, le roi des esprits infernaux et le rival de Salomon, au nom de la puissance que tu auras sur moi après ma mort, au nom de cet anneau magique qui peut redoubler dans tes eaux le feu de l'éternelle destruction, obéis, Belzébuth, éteins ces flammes. Belzébuth, vaincu, souffla en grognant sur la flamme et se retira à l'écart comme un chien qui l'on vient d'enlever un os. « Et toi ? » cria Tristan Plette à Pierrot. « Descends et ne crains rien. »« Puis-je me fier à lui ?» dit Pierrot à la fée Aurore. « Tu le peux, » dit-elle, « il a besoin de toi. »« Je ne descendrai pas seul, » dit Pierrot. « J'emmènerai avec moi ma fiancée et sa mère. »« M'emmène-les si tu veux, » dit Tristan Plette. Pierrot descendit, triomphant, leur donnant la main. Mais il ne voulut sortir du château que le dernier, de peur que, par une perfidie nouvelle, on fermât la porte sur elle. Il traversa les rangs des diables, la tête haute, le regard ferme et assuré. Ses ennemis, rangés sur deux lignes, ne purent s'empêcher d'admirer son courage. Rosine disait dans son cœur, oh, « Que je suis heureuse d'être aimée d'un pareil homme !» Et la fée Aurore elle-même, qui fermait la marche, sourit en montant à Belzébuth son filleul. « Ah, tu n'as pu ni le vaincre, ni l'effrayer, » dit-elle. Le farouche Belzébuth grinçait des dents en voyant sa proie lui échapper. Un pouvoir plus fort que le sien le forçait à l'obéissance. Car vous savez, mes amis, que si le démon peut tenter l'homme et le conduire à sa perte, l'homme, à son tour, par un privilège divin, peut enchaîner et dompter le démon. C'est toute la science des anciens magiciens, science aujourd'hui presque oubliée et négligée, du moins, à cause des inconvénients qu'elle aurait pour le repos public et pour la sûreté des États, mais réels et que cultivent encore dans la solitude quelques sages ignorés. Un jour, peut-être, il me sera permis de vous en dévoiler les arcanes. Aujourd'hui, tirons le rideau. Ces mystères ne sont pas faits pour être entendus par toutes les oreilles, ni répétés par toutes les bouches. Sachez seulement que cette science s'étend et pousse ses racines jusque dans les entrailles de la terre et qu'il n'y a pas un arbre, un oiseau, un rocher, un serpent, une étoile qui ne parle à l'esprit du philosophe et qui ne lui dévoile un des secrets de la nature. Lorsque Pierrot et ses compagnons furent sortis du château de Belzébuth, le premier soin de Pierrot fut de demander à Tristan Plette qui les avait suivis, où il voulait le conduire. « À la cour du roi, » dit Tristan Plette, et il lui apprit ce que vous savez déjà et le besoin qu'on avait de ses services. « Cela m'est fort égal, » dit Pierrot. « J'ai mieux à faire que de me battre pour un roi ingrat et pour son scélérat de fils. Horribilis a voulu prendre ma place, qu'il la garde, et s'il doit périr, qu'il périsse. » Ce ne sera qu'un méchant homme de moins. Pierrot, dit la fée Aurore, n'as-tu pas d'autre raison ? Ma vraie raison, dit Pierrot, embarrassé, c'est que je ne veux plus me séparer de Rosine. J'ai trop souffert de son éloignement et de ses dangers. Je veux que désormais tout soit commun entre nous. Voilà une raison raisonnable, dit la fée. « Mais rassure-toi, je me charge de veiller sur elle et sur sa mère. Toi, va où l'honneur t'appelle. Mais, dit Pierrot. Partez, mon ami, lui dit Rosine avec un doux regard. Il faut sauver ces pauvres Chinois d'abord. Plus tard, nous penserons à être heureux. Allons, puisqu'il le faut, dit en soupirant le pauvre Pierrot. Et prenant congé de sa fiancée, il partit avec le magicien. Quelques secondes plus tard, il était auprès de Ventripan. Le pauvre roi était bien triste et bien malheureux. Sa fille dédaignée, son fils déshonoré par sa lâcheté, son armée taillée en pièces et son royaume envahi lui avaient ôté l'appétit. Quand Pierrot parut, il fut saisi de joie et de tendresse et lui sauta au cou en pleurant. Pierrot, qui avait le cœur tendre, fut si ému de cet accueil qu'il se sentait lui-même envie de pleurer. Et tous les courtisans, voyant le roi pleurer, se mirent à sangloter d'une façon pitoyable. La reine mit son mouchoir sur ses yeux, et la pauvre Bandoline, blessée au cœur par les dédains de Pierrot, saisit avec empressement une si belle occasion de fondre en larmes. « Oh, mon pauvre ami !» dit enfin Ventripan, qui sanglotait comme un veau qui a perdu sa mère. « Quelle joie de te revoir ! Quand tu y es pas, tout va de travers. Tu sais ce qui est arrivé ?»« Je le sais, » dit Pierrot. « Mais là, c'est ma faute, » dit Ventripan. « Avais-je besoin de donner le commandement à un bonnet qui poursuit l'ennemi quand l'ennemi se sauve ?» et qui se sauve quand l'ennemi le poursuit. Enfin, te voilà, tout est réparé. Tu vas partir, tu reprendras le commandement, tu mettras en fuite tes tartares, tu couperas le cou à Cabalandès, et tu feras la conquête de Kraptapka et de l'Empire des îles inconnues, et... Y a-t-il encore quelque chose à faire ? Dit Pierrot, souriant de cette confiance que Ventripan avait donné dans son courage et dans son habileté. « Non, voilà tout pour le moment. »« Partons, » dit alors Pierrot, et il prit congé de sa majesté. Comme il traversait un corridor pour sortir, une femme de chambre de la princesse Bandoline lui toucha le bras et fit signe de la suivre. Ce message embarrassa fort Pierrot. Il n'aimait plus la princesse et même, suivant l'usage en pareille occasion, il se souvenait à peine de l'avoir aimée. Mais il était trop poli et trop délicat pour lui dire une pareille chose en face. Cela ne se dit pas à une simple paysanne, à plus forte raison à une grande princesse dont le principal défaut était d'être assez vaine, ce qui était pardonnable à une fille de roi et de ne pas plaire à Pierrot. Il suivit donc la femme de chambre à contre-cœur et arriva dans l'appartement de Bandoline. Elle l'attendait à demi couché sur un canapé et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Il hésitait un peu, pressé comme il l'était de partir et d'échapper à une corvée assez désagréable. « Asseyez-vous, lui dit-elle tristement, ce que j'ai à vous dire ne vous retiendra pas longtemps. » Il obéit. « Pierrot, reprit-elle, d'où vient que vous ne m'aimez plus ? Suis-je moins belle qu'autrefois ? » ?»« Bon, vous êtes toujours la reine de beauté, répondit Pierrot en détournant les yeux. » Vous ai-je fait du tort ? Aucun, dit Pierrot. Ou parce que je suis fille de roi ? Non, dit Pierrot. Est-ce parce que j'ai refusé autrefois de vous épouser ? Le pauvre Pierrot était à la torture. On aime quand on peut, dit-il, et non pas quand on veut. Grande et triste vérité. La pauvre Bandoline rougit et pâlit. Enfin, elle se leva et lui dit « Vous aimez une autre femme ?»« Oui, dit Pierrot, que cet aveu embarrassait moins que tout le reste. » « Elle est bien heureuse, dit Bandoline en soupirant. « Qu'elle le soit, ajouta-t-elle, puisque le destin le veut. « Et vous, Pierrot, souvenez-vous que vous avez en moi une amie sincère. » À ces mots, elle lui tendit la main, que Pierrot baisa avec respect, et se détourna pour lui cacher ses larmes. Pierrot sortit tout troublé, et alla rejoindre son nouvel ami Tristan Plette. En un instant, ils furent à cheval, et dans le temps qu'une religieuse mettrait à dire « Jésus, Maria », ils se trouvèrent au camp des Chinois. Tristan Plette ne voyait jamais autrement. Dès son arrivée, Pierrot entendit des cris affreux et comprit que le combat était engagé. Il y courut plein d'ardeur. Il était temps. Toutes ces choses que je viens de vous conter si longuement, je veux dire le combat de Pierrot contre les diables dans le château de Belzébuth, sa délivrance par Tristan Plette, l'audience de Ventripan, l'entrevue avec Bandoline et le voyage au camp des Chinois, c'était, grâce aux moyens de transport de Tristan Plette, passé en moins de 2 heures. Nous parlons beaucoup de nos chemins de fer et nous sommes très fiers de faire 10 ou 12 lieues à l'heure, tandis que nos pères se transportaient en un clin d'œil d'un bout de la Chine à l'autre. Et vous saurez qu'entre ces deux bouts, il n'y a pas moins de 700 lieues. Nous sommes des enfants qui ont mis le pied dans les bottes de leurs pères et qui pour cela se croient déjà des hommes. Que de progrès nous avons à faire avant de retrouver seulement la moitié des sciences qui étaient vulgaires au temps d'Abraham et des mages de l'antique Chaldée. Nous avons laissé Horribilis et les Chinois fort en peine derrière leurs grandes murailles. Ils ne furent sauvés d'une destruction complète que par la lassitude des Tartares qui demandèrent un peu de repos à Carpardantès. Celui-ci, sûr du lendemain, l'accorda volontiers. Le matin, vers 11 heures, après un bon déjeuner, il sortit de sa tente et, sans s'amuser à faire un long discours à ses soldats, il leur montra la muraille. « C'est là, dit-il, qu'il faut aller. Marchons avec confiance, Pierrot n'y est pas. » À ces mots, il partit le premier et, donnant l'exemple à tous, dressa contre la muraille une immense échelle. Tous les Tartares le suivirent et en quelques minutes parurent sur le parapet. Horribilis, au lieu de s'occuper du salut de l'armée, n'avait pensé qu'au sien propre. Il faisait préparer des relais de chevaux frais pour lui et sa suite. Les généraux, laissés sans ordre et incapables de se tirer d'affaires eux-mêmes, songeait aussi à la retraite, ou plutôt à la fuite. Et le gros de l'armée, saisi d'une terreur panique, n'attendait que l'apparition du premier soldat tartare pour s'enfuir. Lorsque Cabardantès, debout sur la muraille, poussa son cri de guerre et fondit sur eux, ce fut à qui tournerait le dos le premier. Ces tartares se jetèrent sur les fuyards, le sabre en main, en taillèrent, percèrent et en prirent plusieurs milliers. Le reste, tout en fuyant, poussait des cris affreux. C'est à ce moment que Pierrot arriva sur le champ de bataille. Je ne sais pas si vous avez lu, mais à coup sûr, vous lirez un jour l'Iliade. Vous verrez comment l'invincible Achille, seul et sans armes, en poussant son cri de guerre, arrêta aux portes du camp des Grecs les Troyens victorieux. Le son de cette voix terrible porta l'épouvante dans l'âme d'Hector lui-même. Pierrot, qui dans son genre valait bien Achille et peut-être Roland, ne s'y prit pas autrement que ce fameux héros pour faire reculer les Tartares victorieux. « En avant !» cria-t-il d'une voix qui fut entendue des deux armées. À cette voix si connue, les Chinois s'arrêtèrent sur le champ et, voyant Pierrot, firent face à l'ennemi. « En avant !» cria une seconde fois Pierrot. À ce second cri, les Chinois se jetèrent sur les Tartares qui soutinrent le choc de pied ferme. « En avant !» cria une troisième fois Pierrot, et se précipita dans les rangs des Tartares. À cette vue, à ce cri, tous s'enfuirent. Cabardantès lui-même n'osa attendre son adversaire. Ils se précipitèrent du haut des murs dans les fossés, ils rompirent les échelles sous leur poids, et ne se crurent en sûreté, ceux du moins qui ne s'étaient en sautant rompu ni bras ni jambes, que lorsqu'ils eurent mis la grande muraille entre eux et Pierrot. Celui-ci ne s'arrêta point à massacrer quelques traînards qui n'avaient pu rejoindre assez vite le gros de l'armée. Il rangea sur le champ les Chinois en bataille, et poursuivant son succès, il fit ouvrir toutes les portes des tours et se précipita avec les plus braves de l'armée dans le camp des Tartares. Ici, le combat devint vraiment terrible. Les Tartares, un peu remis de leur frayeur panique, se défendirent avec courage. Cabardantès, entouré de ses gardes, faisait de temps en temps une sortie et du poids de sa masse d'armes écrasait, renversait, mutilait tout ce qui s'opposait à lui. Mais à la vue de Pierrot, il rentra dans les rangs de sa garde qui se serrait autour de lui. Enfin, Pierrot s'élança au milieu des Tartares, abattit à droite et à gauche une centaine de têtes, comme un moissonneur avec sa faucille coupe les épis mûrs, et se trouva face à face avec Cabardantès. L'empereur des îles inconnues était brave. Sa force était colossale et personne n'avait encore osé lui résister. Mais à la vue de Pierrot, il pâlit et se sentit en présence de son maître. Ce n'est pas que Pierrot fût à beaucoup près aussi robuste que lui. Cabardantès l'emportait par la taille et la force. Mais il avait dans le cœur de Pierrot un courage si indomptable et qui prenait sa source dans une âme si ferme et si sûre d'elle-même que ses yeux mêmes jetaient des éclairs dans la bataille. Pas un homme n'en pouvait soutenir la vue. Il regarda Cabardantès, qui se précipita sur lui tête baissée. Pierrot l'attendit de pied ferme. La massue de Cabardantès allait tomber sur sa tête. D'un coup de sabre, il la coupa en deux morceaux. Le tronçon seul resta dans la main du géant. À son tour, Pierrot frappa sur la tête de son ennemi un coup si terrible que le casque de Cabardantès fut coupé en deux parts qui tombèrent à terre. Il redoubla, mais le crâne du géant était invulnérable. Seulement, il fut étourdi de ces deux coups si violents et étendit les bras en avant comme un homme qui va tomber. À cette vue, les deux armées s'arrêtèrent d'elles-mêmes, attendant la fin du combat pour obéir au vainqueur. « Oh, mes enfants, Dieu vous préserve d'assister à un pareil spectacle. Qu'il est imposant, mais qu'il est terrible. La vie de deux hommes et le destin de deux grands empires dépendaient en ce moment d'un coup de sabre. Pierrot, ayant affaire à un ennemi invulnérable, avait un grand désavantage. Il le savait. Mais il ne se découragea point. Celui qui avait combattu sans pâlir Belzébuth et toute la troupe des démons ne pouvait pas reculer devant un homme. Quand il vit que son sabre ne pouvait rien contre la peau de Cabardantès, plus impénétrable que 12 écailles d'un crocodile, il chercha quelque arme nouvelle. Si le géant eût été moins fort, Pierrot l'aurait étouffé dans ses bras, mais il n'y fallait pas songer. Il fit 3 pas en arrière, et saisissant à 2 mains un rocher énorme, il voulut le lancer sur Cabardantès pour l'écraser en détail, puisqu'il ne pouvait le blesser. Au même moment, celui-ci revenait de son étourdissement, il comprit le dessein de Pierrot et tirant son cimeterre, il s'élança sur lui. Ce cimeterre lui avait été donné par sa mère, la sorcière Vautrica, et sa larme, forgée par les esprits infernaux, était d'une trempe si fine que rien ne pouvait lui résister. Il en asséna un coup furieux sur Pierrot. Celui-ci, agile comme une hirondelle, évita le cimeterre qui retomba sur le tronc d'un chêne gigantesque. Le chêne fut coupé en 2 avec la même précision qu'un poil de barbe par le rasoir d'un barbier. Il tomba avec un grand bruit et s'écrasa dans sa chute plus de 50 soldats des 2 armées. À cette vue, tout le monde s'écarta pour faire place aux 2 combattants. Pierrot sentit que si le combat se prolongeait, son adversaire, plus robuste, mieux armé et invulnérable, finirait par le vaincre. Il prit alors à 2 mains le rocher dont nous avons parlé et le jeta de toute sa force dans la poitrine du géant. Celui-ci chancela sur sa base et vomit des flots de sang. En même temps, Pierrot remarqua une chose singulière, c'est que le sang coulait non seulement de ses lèvres, mais de sa poitrine. Il en conclut qu'en cet endroit, Cabardantès n'était pas invulnérable et prit son parti sur le champ. Il arracha des mains d'un Tartare stupéfait une longue lance et l'enfonça dans le creux de la poitrine du géant. La lance pénétra jusqu'au cœur et Cabardantès tomba mort. Tous les spectateurs qui jusque-là dans les 2 armées avaient tressailli de crainte et d'espérance, commencèrent à respirer. Quel que fût le vainqueur, on sentait bien que sa victoire décidait de tout. Je n'oserais dire si la mort de Cabardantès excita de grands regrets chez les Tartares. Ce qui est certain, c'est que les Chinois poussèrent un long cri de joie en voyant leur ennemi à terre. « Victoire et longue vie à Pierrot !» s'écrièrent-ils de toutes parts. Le général tartare Troutmanchkov prit le commandement de ses compatriotes et demanda une trêve pour ensevelir l'empereur défunt. Pierrot l'accorda sur le champ, fit l'éloge de son courage et ajouta gracieusement qu'il ne dépendait que des Tartares de changer cette courte trêve en une longue et solide paix. Aussitôt, les 2 armées se séparèrent et chacune regagna son camp. Les Chinois, ivres de joie, ne savaient comment témoigner leur tendresse au bon Pierrot. Chacun d'eux croyait avoir retrouvé en lui un protecteur, un père, un frère, un ami. Quand il demanda ce qu'était devenu Horribilis, on lui répondit en riant qu'il avait pris le chemin de Pékin. Et qu'au train dont il était parti, il devait déjà être arrivé. L'autre armée était fort divisée. Après la mort de Cabardantès et de Pantafilado, il n'y avait plus d'héritier du trône. La dynastie était éteinte. Perte médiocre, car il y a toujours plus de rois sans royaume que de royaumes sans roi. Au reste, rien n'était plus facile que de faire un roi. On avait que l'embarras du choix. Comme les chefs des principales familles étaient au camp, chacun d'eux s'offrit pour candidat et fit valoir sa naissance, sa fortune et son courage. La discussion fut très vive. Chacun des orateurs avait le sabre au poing et paraissait disposé à soutenir son droit de toutes les manières. Enfin, l'un des plus âgés, qui par hasard n'avait aucune prétention au trône, ouvrit un avis qui fut bientôt approuvé de tous. « Il nous faut, dit-il pour empereur, le plus brave des hommes, afin qu'il soit digne de commander aux Tartares, qui sont, après les Français, le plus brave peuple de l'univers. Il faut qu'il n'ait point de famille ni de liaison dans le pays, afin qu'il ne favorise aucun parti, au détriment des autres. Il n'y a qu'un homme ici qui remplisse ces deux conditions. « Qui donc ? » cria-t-on tout d'une voix. « Mais c'est Pierrot !» Cette proposition, par un hasard singulier, réunit toutes les voix. On offrit le trône à Pierrot, qui le refusa. « Je n'en suis pas digne, » répondit-il modestement. La vérité est que Pierrot, devenu sage par l'expérience et connaissant la difficulté de gouverner les hommes, ne voulut pas s'engager dans une affaire si épineuse. Que ceux qui se sentent la vocation, disait-il, essaient de le faire. Pour moi, je veux vivre tranquille et dans un repos complet avec ma famille. Je veux bien combattre pour ma patrie quand elle aura besoin de moi, mais je ne veux pas régner. Dans ce métier-là, le plus habile fait chaque jour sans sottise irréparable. Et que ferais-je, moi qui ne suis qu'un ignorant ? J'aime mieux travailler en paix, élever mes enfants, cultiver la terre, donner le bon exemple autour de moi, et quelquefois, mais rarement, de bons conseils à ceux qui me les demanderont avec un cœur sincère. La Providence se chargera du reste. Peut-être trouverez-vous, mes amis, que notre ami Pierrot était un peu égoïste. Le vieil Alcofribas le trouve très sage et l'approuve en tout point. Pour moi, je ne sais qu'en dire. L'égoïsme de Pierrot est d'une espèce si rare qu'il touche à la vertu la plus pure et au désintéressement le plus extraordinaire. Il y touche de si près qu'en vérité, j'aurais de la peine à l'en distinguer. Toutefois, sur ce sujet, comme en toute chose, les opinions sont libres. Les Tartares ne se laissèrent point décourager par un premier refus. Au contraire, aiguillonnés comme la plupart des hommes par cet obstacle, ils revinrent à la charge et demandèrent enfin à Pierrot de leur choisir un roi de sa façon. « Car, dit l'orateur, nous n'en trouvons point parmi nous qui réunissent toutes les voix, et ce choix sera une sourde guerre civile. Eh bien, dit Pierrot, proclamez la République. À ces mots, tout le monde prit à la fois la parole et voulut donner son avis. Le fracas devint étourdissant. L'un dit que la République était l'anarchie. L'autre que c'était le gouvernement des grands hommes et des hommes de bien. Un autre que c'était moins le moins ennuyeux des gouvernements à cause du changement perpétuel des gouvernants et des systèmes. Un quatrième dit que cela convenait aux gens d'Europe parce qu'ils ont le nez aquilin et non pas aux Tartares parce qu'ils ont le nez Camus. Pierrot assourdi alla faire un tour de promenade. Quand il revint, on avait opté pour la monarchie. Toutemanchkov avait été nommé empereur. Il fit sur le champ la paix avec Pierrot, lui rendit les prisonniers chinois et partit pour Kramtavka afin de se faire reconnaître. Pierrot, ayant accompli sa tâche, fit réparer la grande muraille, laissa le commandement de l'armée chinoise à des officiers aguerris et alla retrouver Van Tripan. Le bruit de ses exploits l'avait précédé. Le roi vint le recevoir au pied du grand escalier dans la cour d'honneur, l'embrassa tendrement, le fit asseoir à sa droite pendant le dîner, et but à sa santé plus de 6 bouteilles en le proclamant le vainqueur des Tartares, le sauveur de la Chine, et le digne objet de l'admiration du monde. Ce gros ventripat était un bonhomme, au fond, et il sentait bien tout ce qu'il devait à Pierrot. Quant à celui-ci, toujours modeste, il ne pensait qu'à rejoindre sa chère Rosine et à goûter un repos qu'il avait si bien gagné. Enfin arriva ce jour si longtemps désiré. Pierrot partit seul, monté sur Fanlair, qui piaffait, caracolait et galopait comme s'il avait compris la joie de son maître. Il arriva à la porte de la ferme. Rosine ne l'attendait que quelques jours plus tard, parce qu'il n'avait pas voulu lui annoncer son arrivée. Aussi était-elle en négligé du matin, mais ce négligé, mes chers amis, eût été envié des plus grandes et des plus belles princesses si elles avaient pu en comprendre toute la coquette simplicité. Écoutez la description qu'en donne le sage Alcofribas. Elle était vêtue, dit-il, d'une robe blanche d'étoffe simple et unie. Cette robe qu'elle avait taillée elle-même se drapait naturellement autour de son corps comme les étoffes qui couvrent les statues des impératrices de Rome. Mais vous concevez assez la supériorité que devait avoir la nature vivante et animée, disposant de l'une des plus belles créatures, qui depuis Ève ait enchanté les regards des hommes, sur l'artiste qui sculpte un marbre inanimé et qui cherche, à force de génie, à reproduire quelque faible image de l'éternelle beauté. Sa taille souple et sans corset donnait à sa démarche une grâce incomparable et pleine de naturel. Un ruban rouge, noué autour de son cou, relevait l'éclat de son teint qui était blanc, rosé et presque transparent. Ses cheveux négligemment attachés, comme ceux de Diane Chasseresse, retombaient sur ses épaules, dans un désordre charmant. Peut-être trouverez-vous qu'Alcofribas ne donne qu'une faible idée de la beauté qu'il veut peindre, et que ses comparaisons tirées de la sculpture de l'Antiquité sont un peu obscures pour qui n'a jamais visité le musée du Louvre. Mes enfants, vous avez raison. Mais aucun homme n'est parfait et complet en toutes choses. Le vieil Alcofribas avait passé sa vie entière dans l'étude des sciences, et il avait un peu négligé les lettres. Le binôme de Newton lui était plus familier que l'éloquence et les découvertes paléontologiques de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire, ne sont pas la même millième partie des choses que ce vieux magicien avait inventées et publiées dans les livres mystérieux qui furent autrefois brûlés par les ordres du sauvage Gengis Khan et dont le dernier exemplaire a été découvert il y a 6 mois dans les ruines de Samarcande par un de mes amis qui est allé visiter les bords de l'Oxus. Oh, si vous saviez les grandes, belles, profondes et mystérieuses conceptions que contient cet ouvrage admirable, unique jusqu'à présent dans l'histoire du monde, vous prendriez sur le champ, le chemin de fer jusqu'à Strasbourg. Et de Strasbourg, vous seriez à Vienne en chemin de fer. De Vienne, vous seriez à Constantinople, moitié en chemin de fer, moitié par terre. De Constantinople à Scutari par mer, de Scutari à Damas avec la caravane des pèlerins de la Mecque, de Damas à Bassora par chameau à travers les déserts de la Mésopotamie, de Bassora qui est sur le Tigre à Herat à pied, à cheval et en voiture ou en ballon, suivant l'occasion, de Herat aux portes de fer qui gardent l'entrée du Khorasan et des portes de fer à l'Oxus et à Samarcande, capitale du pays de Sogde. Quand vous aurez fait ce voyage, vous entrerez dans le grand caravansérail en prenant bien garde de vous annoncer comme des savants venus d'Europe, ce qui éveillerait la curiosité et le soupçon. Vous traverserez le caravansérail dans toute sa longueur 2 fois, vous le retraverserez 2 fois dans sa largeur, Vous suivrez une ligne diagonale entre les deux extrémités les plus éloignées du bâtiment, car il est de forme irrégulière. Vous aurez soin, en marchant, de prononcer tous les 9 pas ces 2 mots, Kara, Brankara, qui sont, comme je vous l'ai dit, une formule magique consacrée. Puis vous sortirez du caravansérail, vous suivrez la première rue à gauche, qui est la rue Rakhra, en tartare signifie mendiant. Vous y trouverez 12 vieillards à barbe blanche qui sont rangés en cercle et assis à terre, les jambes croisées. Ils cherchent sur la tête et dans les cheveux des uns des autres ce petit animal qui tourmente si cruellement les mendiants napolitains. Quand ils le tiennent, ils font un geste de satisfaction et l'écrasent entre les pouces. Non, ne cherchez pas à leur parler ni à les aider, ce serait inutile. Suivez la seconde rue à droite, la première à gauche, la troisième à droite, la seconde à gauche, la quatrième à gauche et à droite. Là, vous prendrez la première à gauche et vous vous arrêterez devant une maison que rien ne distingue de toutes les autres. N'allez pas plus loin, c'est là. Vous entrerez dans une allée sombre, vous monterez un étage, vous enfilerez un long corridor, vous monterez un autre étage, vous entrerez dans une antichambre qui donne sur un escalier, vous descendrez 6 marches, vous frapperez au mur et vous descendrez encore 6 marches, vous en remonterez 9 et vous vous trouverez en face d'une porte secrète dont vous n'aurez pas la clé. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le portier, il n'y a pas de serrure. Vous direz, mais ce n'est pas ce que je demande. Vous remonterez encore 3 marches et vous serez dans l'antichambre. Là, pas un laquais ne viendra recevoir votre chapeau et vos gants, mais vous verrez une main qui, seule en l'air et détachée de tout corps visible, vous fera signe avec le doigt de la suivre. Cette main est noueuse et ridée. On voit qu'elle a beaucoup souffert. C'est celle du vieil Alcofribas. Elle vous fera signe d'entrer dans un cabinet poudreux que le domestique du vieux magicien vient balayer tous les 600 ans par ordre de son maître. Ne vous arrêtez pas à regarder les globes et les cartes astronomiques, ni la position relative des soleils, chose que vous verrez dessinée sur le mur. Allez droit à la table où la main vous conduit. Poussez le ressort d'une boîte en bois de cèdre. La boîte s'ouvrira et vous verrez le fameux manuscrit écrit dans la langue des anciens Sogdiens, que personne ne parle depuis le règne de Cyrus. Vous ferez signe que vous ne comprenez pas. La main fera signe que vous êtes des imbéciles, vous prendra par le bras et vous jettera à la porte. Quand vous serez dans la rue, vous pourrez reprendre la route de Paris, si bon vous semble, à moins que vous ne préfériez déchiffrer les inscriptions laissées par le roi Gustave il y a 3000 ans sur les murs de son palais dont on voit les ruines à Samarcande. Ici, vous me demanderez peut-être à quoi sert un si long voyage, puisqu'après tout, vous ne comprenez pas la langue du vieil Alcofribas. Mes enfants, vous êtes trop aimables pour que je ne vous dise pas la vérité tout entière. À quoi servent toutes les choses de ce monde? À passer, ou si vous voulez, à tuer le temps, jusqu'à ce que nous allions tous ensemble en paradis. Il y a des gens qui ont fait 7 ou 8 fois le tour du monde et qui n'avaient pas d'autre but que de voir plutôt le terme des 60 ans de vie dont le ciel leur avait fait présent. Croyez-vous que ce ne soit rien que d'avoir vu Strasbourg, Vienne, Constantinople, Damas, Bassora, les portes de fer, Samarcande et la main du vieil Alcofribas? Ce voyage ne peut pas durer, aller-retour, moins d'une année. C'est toujours une année pendant laquelle vous avez eu un désir violent, une vraie passion, c'est-à-dire ce qui fait vivre et soutient les hommes. Car, faibles créatures que nous sommes, nous n'avons en nous-mêmes aucun principe de vie. Tout nous vient du dehors, et Dieu l'a voulu ainsi, pour que nous eussions sans cesse recours à lui. Bon, il est temps de laisser ce sujet. Je commence à prêcher, je crois, et vous, enfants, à bâiller. Écoutez plutôt l'histoire de notre ami Pierrot. Elle touche à sa fin, car le vieil Alcofribas dit très bien « Il n'y a rien de plus fade et de plus ennuyeux que la peinture du bonheur. » Et Pierrot a en fait enfin mérité d'être heureux. Je ne vous ferai pas le récit de sa conversation avec la belle Rosine. Vous sentez bien qu'elle eût été très intéressante, car tous les deux avaient autant d'esprit que les anges, et les sujets de conversation ne leur manquaient pas. Qu'il vous suffise de savoir que la mère de Rosine fut obligée de venir les chercher elle-même et de leur rappeler que le déjeuner était servi depuis plus d'une heure. Deux jours après, le roi Ventripan arriva, suivi de sa fille, qui avait voulu assister au mariage de Pierrot et lui témoigner par là une amitié sincère. De son côté, Pierrot dit qu'il ne désirait qu'une occasion de lui prouver son dévouement, et cette occasion ne tarda guère à se présenter, comme nous le dirons, dans son lieu. Le lendemain, on signa le contrat. Le père et la mère de Pierrot arrivaient justement des Ardennes par le chemin des airs où ils avaient suivi la fée Aurore. Je laisse à deviner la joie et les embrassements de cette heureuse famille. Le mariage se fit dans la maison de la mère de Rosine. Il y avait pêle-mêle des rois, des princesses du sang, des bourgeois, des paysans, des soldats, et un évêque, Monseigneur de Bangkok, dans le royaume de Siam, qui donna lui-même la bénédiction nuptiale aux deux époux. La fée Aurore présidait toute l'assemblée, et après le repas, grâce à ses soins, l'orchestre des génies, conduit par le propre chef de musique du roi Salomon, donna un bal magnifique. Ainsi finissent les aventures de Pierrot. « Puisse-t-elle, dit le vieil Alcofribas, ne pas vous avoir paru trop longue ?»« Je ne vous parlerai pas du reste de la vie de Pierrot, qui fut extrêmement paisible. » Un seul accident troubla quelques moments le cours, mais cet accident n'eut pas de suite fâcheuse. Le prince Ribilis, impatient de monter sur le trône, fit révolter contre son père une partie de l'armée. Ventripan, effrayé, alla se réfugier chez Pierrot, qui le reçut à bras ouverts, et sans lui donner le temps de s'expliquer, monta à cheval et courut au-devant des révoltés. À sa vue, ceux-ci posèrent les armes et demandèrent grâce. Pierrot leur pardonna et se fit livrer au Ribilis. Ventripan voulait le faire empaler. Mais Pierrot, qui abhorrait les supplices et dont le caractère naturellement généreux s'était encore adouci au contact de celui de Rosine, obtint sa grâce et se contenta de le faire exiler. Horribilis, à quelques jours de là, fut pris par les Tartares et pendu à un arbre avec son ami Tristan Plette. Cet événement ne fit de peine à personne. Deux ans après, Ventripan mourut, laissant le trône à sa fille, qui voulut confier le gouvernement à Pierrot, mais celui-ci la remercia et refusa de sortir de sa retraite. Toutefois, elle venait souvent lui demander conseil, et Trotzmannschkoff, l'empereur des Tartares, ayant voulu violer la paix, se retira jusqu'au fond de ses déserts sur le seul bruit de la nomination de Pierrot au commandement de l'armée chinoise. Ainsi, quoiqu'il ne fût qu'un simple particulier et qu'il ne voulût pas être autre chose, il gouvernait en réalité l'Empire par ses vertus, son expérience et son courage. Il vécut fort longtemps, employant sa fortune, que les libéralités de Van Tripan avaient rendue immense, à fonder des écoles et des bibliothèques, à construire des canaux, à réparer les grandes routes et à faire des expériences agricoles dont il publiait le résultat afin que tout le monde pût en profiter. C'est lui qui inventa le drainage que les Anglais ont retrouvé il y a 20 ans et dont ils se sont attribué le mérite. Il inventa encore beaucoup d'autres choses qu'on réinventera plus tard sans aucun doute et que je ferai connaître au public dès que j'aurai terminé la traduction du fameux manuscrit d'Alcofribas qui est caché dans une vieille maison de Samarcande. Vous verrez alors, mes enfants, quel homme c'était que Pierrot, et comme il avait bien profité des leçons de la fée Aurore. Son nom est resté fort célèbre à la Chine et dans le vaste empire des îles inconnues. De là, il fut porté en Europe par Plancarpin, qui en entendit parler, aux environs de Karakorum, et beaucoup de fables se mêlèrent à l'histoire véridique que je viens de vous conter. Ainsi, ne croyez pas, dit le vieil Alcofribas, que Pierrot n'a jamais été glouton, ni poltron, ni menteur, ni pendu, comme le représentent souvent des bouffons et des farceurs qui n'ont d'autre objet que de vous faire rire. On l'aura confondu sans doute avec de faux Pierrot, indignes de porter ce nom respectable. Pour moi, qui ne cherche que le vrai, je vous assure et vous garantis que Pierrot a vécu comme un bon citoyen et qu'il est mort comme un saint. Je vous souhaite, mes amis, de faire la même chose. Fin.